Le guide du Bordeaux colonial, le rendez-vous des coloniales sur la clé des ondes, tous les mercredis à 13h, rediffusion le dimanche à 18h et quand vous voulez en podcast.
Bonjour à tous et tous, chères auditrices et auditeurs, et bienvenue pour notre émission Le Guide du Bordeaux colonial, le rendez-vous décolonial de la Clé des Ondes. Pour cette émission, nous allons vous diffuser deux tables rondes qui sont issues d'une rencontre organisée le 15 mars par Envita à l'auditorium du Musée d'Aquitaine de Bordeaux. Envita signifie Association nationale des villes et territoires accueillants. Créée le 26 septembre 2018 par 9 villes fondatrices, Envita rassemble des collectivités territoriales, des groupements de collectivités, mais aussi des élus, qui œuvrent pour les politiques d'accueil inconditionnelles, incluant les publics exilés, et surtout pour l'hospitalité sur leur territoire. Envita regroupe plus de 80 collectivités territoriales et Bordeaux, la mairie de Bordeaux, assure désormais la vice-présidence de Envita. C'est un espace de mobilisation politique. Envita met en place une stratégie de plaidoyer commune pour défendre l'accueil digne sur nos territoires et une meilleure participation des collectivités territoriales aux politiques nationales sur l'accueil. Et c'est dans ce cadre de construire des discours humanistes et politiques communs que la ville de Bordeaux, qui assure désormais la vice-présidence de l'association, a co-organisé avec Envita une journée de rencontre le 15 mars à Bordeaux. C'était la première édition des territoires accueillants du Grand Ouest. La journée s'est organisée en deux temps. Une matinée qui était destinée à l'échange entre les élus et les agents qui portait sur « personnes sans papier habitant nos territoires au droit incomplet ». Ces échanges ont été suivis d'une conférence de presse où les représentants du territoire ont alerté sur la détérioration des conditions de vie et d'accueil des personnes exilées sur leur territoire. Un communiqué de presse des 18 territoires que vous trouverez dans l'article de ces podcasts sur le site de la Clé des Ondes. L'après-midi est organisée une visite au musée d'Aquitaine, suivie de deux tables rondes au sein de l'auditorium du musée. Le maire Pierre Urmic a introduit les échanges. La première rencontre était modérée par Sandra Merlet, moi-même, en tant que consultante historique et surtout représentante du guide du Bordeaux colonial. Et j'ai eu le plaisir donc de modérer une table ronde qui portait sur l'histoire des migrations et son impact sur les villes d'aujourd'hui. Puis, la seconde rencontre a porté sur les façons dont l'action sociale se confronte à la complexité du droit des étrangers, et cette table était modérée par Madame Catherine Gauthier, professeure en droit public et vice-présidente de l'Université de Bordeaux. Et pour finaliser cette journée d'échange, le collectif Anticra a pu intervenir pour dénoncer l'installation d'un nouveau centre de rétention administratif à Mérignac, et je partagerai également dans les articles de ces deux podcasts le lien pour suivre les causes-actions du collectif Anticra. Et donc c'est une émission du Guide du Bordeaux colonial en deux temps, un peu spéciale, car nous allons diffuser de manière intégrale les deux tables rondes organisées par Envita, dans le cadre de la journée qui s'appelait, je rappelle, Territoire accueillant du Grand Ouest, et co-organisée par la mairie de Bordeaux. Ces deux échanges, nous allons les diffuser en direct, mais vous pourrez aussi bien sûr les retrouver sur la plateforme de podcast laclédesondes.fr. Donc, cette rencontre territoire accueillant du Grand Ouest organisée par Envita et la mairie de Bordeaux était bien sûr une rencontre auquel le guide du Bordeaux colonial était présent, mais aussi surtout intervenant. Je vous souhaite une très bonne écoute de ces deux tables rondes organisées par Envita à Bordeaux le 15 mars.
Le guide du Bordeaux colonial, le rendez-vous décolonial sur la Clé des Ondes.
Table ronde 2, comment l'action sociale se confronte à la complexité du droit des étrangers. Pour cet échange organisé par la ville de Bordeaux et l'association Envita, était invitée Madame Harmonie Le Serre-Meunier, adjointe au maire de Bordeaux aux solidarités et également accès aux droits et aux seniors, Madame Amélie Pinel, représentante du collectif Nos Services Publics, mais également deux représentants de la Maison des Livreurs de Bordeaux, qui étaient donc Monsieur Jonathan Lutis Chevalier, coordinateur, et Monsieur Khalifa Koeta, vice-président de l'association de la Maison des Livreurs de Bordeaux. Ce second échange était donc modéré par Catherine Gauthier, professeure en droit public et vice-présidente de l'Université de Bordeaux. À nouveau, une table ronde organisée par Envita et la ville de Bordeaux, le 15 mars, à l'auditorium du Musée d'Aquitaine.
Merci à toutes et tous d'être toujours aussi nombreux et nombreuses. Merci à celles et ceux qui nous rejoignent pour cette deuxième table ronde. On remercie encore nos intervenants et intervenantes et modératrices de la première table ronde qui ont permis de dresser un premier panorama, notamment avec ces enjeux historiques aussi des migrations. Pour ce deuxième temps, cette deuxième table ronde, on remercie nos intervenants et intervenantes qui sont là et notre modératrice qui, du coup, pour une table ronde qui sera centrée sur les enjeux d'action sociale et de droits des étrangers. Et je leur laisse tout de suite la parole. Je vous propose qu'on les applaudisse. Bonjour à tous. Je vais prendre la parole pour introduire un petit peu cette table ronde et puis d'abord remercier très chaleureusement les organisateurs de cette table ronde de m'avoir convié, en particulier Harmonie Le Cerf, que je suis très très contente de retrouver Harmonie, en fait, pour des raisons personnelles et de cheminement commun autour de cette table ronde, et puis je reparlerai peut-être chemin faisant de notre cheminement commun en parlant de ces questions complexes d'action sociale et de droit des étrangers. Alors rapidement, moi je suis professeure de droit public, spécialiste de droits fondamentaux et spécialiste de droit européen d'asile et d'immigration. C'est pour ça, et c'est à ce titre-là, je pense qu'Harmonie a pensé à moi pour cette table ronde. J'ai été juge assesseur à la Cour nationale du droit d'asile, donc c'est ces questions de droit des étrangers que je connais pas mal. Et ce que je voulais mettre en exergue en introduisant cette table ronde, c'est ô combien ce genre de rassemblement est important. Parce que le droit des étrangers, c'est pas un droit classique, c'est un droit qui est éminemment complexe. C'est un droit qui est à la croisée, si vous voulez, des chemins entre le droit public et le droit privé, entre le droit européen et le droit français, entre vraiment des questions qui sont éminemment, en fait, complexes. Normalement, le droit, ça devrait être, comme son nom l'indique, l'accès, si vous voulez, à des facilités, à de l'intégration, etc. Le droit signifie vraiment quelque chose de très fort. Et en fait, quand on parle des droits des étrangers, on parle toujours de dérogation, d'exception, de complexité, d'obstacles. Et le droit des étrangers aujourd'hui, je vous le dis, hein, pour l'enseigner, c'est un droit qui est éminemment complexe. Or, les personnes à qui s'adresse ce droit sont des personnes qui ne sont pas en facilité, si vous voulez, pour accéder au droit, parce qu'ils ne parlent pas la langue, parce qu'il y a une barrière culturelle, parce que ils sont dans des situations souvent précaires, et ils ont besoin d'accéder à des droits sociaux. Et la caractéristique quand même des droits sociaux, ce qu'on apprend à nos étudiants, nous, à l'université, c'est que ce ne sont pas des droits politiques. Les droits sociaux, normalement, sont des droits universels. Donc ce sont des droits qui devraient pouvoir être actionnés, activés par tout le monde. Or, depuis plusieurs décennies, et puis ça s'accélère et ça se complexifie encore davantage depuis quelques années, les choses deviennent éminemment compliquées. On l'a vu, on en a beaucoup parlé au moment de l'adoption de la loi immigration, de la dernière. Hein. Depuis 1945, on est au 117e texte qui porte sur le droit des étrangers. C'est quand même un truc énorme. Et puis, quand on regarde attentivement ce droit, je vous l'ai dit, c'est un droit qui est fait d'obstacles. Et donc, pour l'appliquer, pour le mettre en œuvre et pour encadrer les étrangers pour leur accès au droit, ben, on a besoin de vous. Et c'est là que je reboucle avec Harmonie. Harmonie, je l'ai connue, elle s'occupait de droits des étrangers dans des associations, et j'étais toujours épatée parce que je me disais, ben, en fait, Harmonie, elle en sait plus que moi. Moi, je connais le cadre, mais le cadre et l'application du cadre, il y a une distance qui est énorme, et tout est fait, en fait, pour complexifier, pour que les obstacles soient là, et c'est tout à fait, c'est politiquement voulu, en fait. Hein, on est bien d'accord, la dématérialisation aujourd'hui, etc., on a ce genre de problématiques, et on est, en fait, à l'inverse de ce que l'on devrait poursuivre dans des textes de loi. Donc il y a une ambiguïté là qui est extrêmement forte. C'est un droit, le droit des étrangers, le droit de l'action aussi, parce qu'on l'a vu sur la dernière loi immigration, eh bien, les contributions extérieures qui ont été portées au Conseil constitutionnel l'ont été parce que précisément des universitaires ont travaillé avec des avocats qui ont travaillé avec des associations comme la vôtre, avec des mairies, etc., avec la société civile qui s'est mobilisée et qui a pu apporter des contributions et qui ont fait certainement qu'on a, alors j'ai envie de dire éviter le pire, mais pour peu de temps en fait, hein, parce que le Conseil constitutionnel a écarté un bon paquet, notamment la question des prestations sociales en disant que c'était des cavaliers législatifs, mais vous savez que ce n'est pas déclaré une inconstitutionnalité au fond, donc on est encore dans une ambiguïté la plus totale. Donc voilà les quelques mots que je voulais dire vraiment en introduction rapidement, c'est de dire à quel point en fait les acteurs du droit des étrangers doivent se parler, doivent se réunir, doivent discuter, parce que pour agir on a besoin d'être ensemble. Et les étrangers, pour pouvoir activer leurs droits sociaux, ils ont besoin de la société civile, ils ont besoin de la société politique, ils ont besoin en fait d'être encadrés. Et il y a une parole quand même et une action, je pense, qui est vraiment essentielle à mener. Et donc, moi, je suis ravie de me retrouver auprès de vous et de vous entendre sur cette question, justement, du droit des étrangers et de l'action sociale. Donc on a parmi nous trois intervenants et je pense que vous allez prendre la parole à tour de rôle et puis ensuite on échangera, on posera des questions. Normalement, nous avons la parole pour une dizaine de minutes. On va commencer par Harmonie, donc le CERF Meunier qui est adjointe au maire de Bordeaux, aux solidarités, à l'accès aux droits et aux seniors. J'ai bien tout dit. Ensuite, à ma gauche et donc à votre droite, nous aurons Khalifa Kweta qui est représentant de la maison des livreurs et puis Jonathan Lutti le Chevalier qui est coordinateur, je crois, de cette maison des livreurs de Bordeaux. Avec voilà une illustration hein, des difficultés qui se posent, qui sont tout à fait concrètes. Et je pense que l'exemple des livreurs est un excellent exemple. Ensuite, nous avons Amélie Pinel, qui est membre d'un collectif que je suis pas mal actuellement, le collectif Nos Services Publics, qui vraiment développe une analyse hein, qui est tout à fait utile sur ce que deviennent nos services publics aujourd'hui et ce qu'ils pourraient être. Je pense que c'est ça aussi, parce que vous êtes quand même force de proposition. Donc je pense qu'on va commencer immédiatement avec Harmonie avant d'enchaîner sur nos autres intervenants.
Merci beaucoup. Alors oui, effectivement, quand on s'est connus, moi je faisais du droit des étrangers dans des associations et j'avais repris mes études. Et en fait, j'ai été aspirée par le droit des étrangers, d'une part parce que c'était un militantisme auprès des personnes qui me convenaient, mais aussi parce que ça prend un temps inimaginable. Effectivement, on a des textes nouveaux en permanence et on passe notre temps à apprendre, à se former, à s'auto-former, à former les autres, à décortiquer les textes qui ne font que changer en permanence, à travailler avec les avocats, à constituer des dossiers ensuite qu'on relaie aux avocats. Et depuis 4 ans que je suis élue, je suis plus en distance et vraiment je me rends compte à quel point en 4 ans les choses ont encore énormément changé et à quel point dès qu'on prend un peu de recul, en fait c'est un droit tellement complexe en évolution permanente, on perd un peu le fil. Là sur la question du sujet qui nous occupe, déjà j'en ai parlé ce matin mais je voudrais le redire maintenant, on a souvent cette phrase est-ce qu'on peut accueillir toute la misère du monde, que moi je déteste profondément, je m'associe aux chercheurs qui disent que c'est une sentence de mort, mais au-delà de ça, je voudrais insister sur un fait, c'est que ce sont les hommes, les femmes et les enfants qui voyagent et pas la misère. Et des gens fuient parfois ou souvent la misère, mais la misère qui est en France, la misère qui est dans nos bidonvilles, la misère qui est à la porte de nos CCAS, qui est dans les campements, c'est la misère de la France, c'est la misère que l'on crée en France. C'est la misère que l'on installe, que l'on organise ou qu'on laisse s'installer et se développer. Et il serait un petit peu facile de laisser croire que c'est la misère des migrants qu'ils ont amené avec eux et qu'on n'a aucune responsabilité si ce n'est de décider si on a envie ou pas de s'en occuper. En réalité, cette misère, on en est entièrement responsable et on peut l'enrayer, on peut la supprimer, on peut passer au-delà de ça en mettant des moyens, en faisant des lois et en accueillant les personnes. Et c'est important de le dire parce que il faut qu'on se sente entièrement concernés par cette misère, parce qu'elle est la nôtre et elle est de notre responsabilité. Maintenant, la question des personnes migrantes, en fait, elles sont là. Et quoi qu'on en pense, alors nous, à la ville de Bordeaux, à l'Anvita, on défend plutôt les valeurs d'accueil et d'hospitalité. D'autres peuvent ne pas le défendre, mais quand même, les personnes migrantes, elles sont là. Donc on est bien obligé d'en faire quelque chose, parce que on a quand même des valeurs, des droits fondamentaux, des libertés publiques et des valeurs humaines profondes que l'on défend. On a la liberté, la fraternité, l'égalité au fronton de nos mairies, de nos bâtiments publics. Donc on doit s'en saisir. Et les gens, c'est pas parce qu'on pense qu'il faut pas ou qu'il faudrait fermer les frontières, et d'ailleurs même si on ferme les frontières, les personnes, elles continuent à voyager, elles continuent d'être là. Donc nous, qu'est-ce qu'on fait ? Eh ben, on se retrouve face à ces personnes dans leur situation très compliquée. Et nous, les villes et leur CCAS, on est même au dernier degré, enfin la dernière porte à laquelle on frappe. Pour préparer cette table ronde, j'ai demandé à nos services et donc à notre directeur général adjoint qui est ici présent, Pierre-André Vaquin, des éléments, des services sur comment eux, ils vivent au quotidien cette question. Et puis, il y a 2 semaines, j'ai fait une immersion dans certains de nos services d'accueil du public. Et cette question de droit des étrangers, elle revient beaucoup de manière très négative. En fait, nos travailleurs sociaux et nos intervenants sociaux vivent très mal la lourdeur des situations des droits des étrangers. Il parle de textes nébuleux, de droits incompréhensibles, de situations très lourdes. Et ce qu'ils vivent très mal, c'est qu'ils n'arrivent pas à aider les personnes et que quand ils doivent le faire, quand ils sont obligés de traiter ces dossiers, en fait, ils sentent qu'ils ont la vie des personnes entre les mains, qui comprennent pas et qui sont pas tout à fait sûrs de ce qu'ils font, mais que la moindre erreur pourrait être préjudiciable pour l'entièreté du parcours des personnes. Et ça, c'est très lourd. Si des juristes ou même des avocats ont du mal à suivre les questions jurisprudentielles et les questions de dossier, comment des gens qui sont intervenants sociaux sur, c'est leur travail, le droit, d'être assistants sociaux ou intervenants sociaux, mais ils sont pas spécialistes au quotidien du droit des étrangers. Ils ont très peur de mal faire. Et puis surtout, ils se retrouvent confrontés à des personnes qui sont en grande précarité, en grande détresse, dans des situations extrêmement compliquées, parfois qui sont affolées, qui ne comprennent pas ce qui leur arrive, qui ne comprennent pas les documents. Et la personne morale qui est en charge de la question migratoire, en fait, c'est la préfecture, qui n'a plus de guichet. Et d'ailleurs, j'ai même appris qu'à la préfecture de Bordeaux, on peut vous donner un petit papier à l'entrée avec l'adresse du CCAS de Bordeaux pour vous dire d'aller au CCAS de Bordeaux, alors que nous n'avons aucune convention pour traiter le droit des étrangers et pour accompagner les personnes migrantes. Donc c'est très lourd et ça décourage beaucoup les personnes qui sont intervenants sociaux. Il y a des avocats spécialisés, tout le monde n'a pas accès aux avocats, on a des avocats solidaires et il y en a dans la salle, on les remercie, qui travaillent très bien, efficacement, avec beaucoup d'engagement auprès des personnes migrantes, mais ils sont aussi surchargés et dépassés par la tâche, parce que aujourd'hui, malheureusement, se normalise le fait que le tribunal administratif devient quasiment le bureau d'études des questions de titre de séjour. Les gens ont des réponses qu'ils ne comprennent pas ou souvent n'ont pas de réponse, les dossiers se perdent, les temps sont trop longs, il y a des ruptures de droit au séjour et il ne reste qu'à faire des référés ou faire saisir le tribunal administratif. Et ça, c'est extrêmement lourd pour les personnes migrantes. Et c'est extrêmement lourd aussi pour les associations, dont certaines sont ici aujourd'hui, qui accompagnent les personnes migrantes. Nous, on a des permanences au CCAS, notamment de l'association Alif. On finance un certain nombre d'autres associations qui nous demandent des subventions que l'on finance au titre de l'accès au droit. Mais ces associations-là, elles sont aussi complètement surchargées. C'est difficile de renvoyer vers des associations en sachant que les gens vont attendre des heures en salle d'attente, en sachant que les bénévoles qui sont dans ces associations vont voir les files, les soirées interminables. Tout ça est aussi une réalité de nos territoires. Et d'ailleurs, nos services disaient que même les liens de partenariat entre la ville, le CCAS et les associations se distendent parce que chacun est complètement se distante parce que chacun est complètement submergé dans sa propre activité et on a du mal à trouver de l'espace pour travailler ensemble. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour accompagner ces personnes? Nous, déjà, on n'aime pas trop dire sans papier. Même si c'est une réalité qui a eu de l'importance dans l'histoire de la lutte des personnes migrantes, en fait, elles ne sont pas sans papier. Et alors, pire, moi, quand je suis arrivée à la mairie de Bordeaux, on disait sans droit ni titre. Mais ça n'a pas de sens. Sans droit ni titre, ça ne concerne pas les migrants. Ça peut concerner certains, mais ça concerne surtout les questions d'habitation, de squat, sans bail, en fait. Mais ces gens, ils ne sont pas sans droits, ils sont sans titre de séjour ou ils ont des droits incomplets. Donc nous on utilise ça, des droits incomplets, parce qu'ils ont des droits mais pas tous, pas le droit au travail, pas le droit au logement, même si on est bien content quand même qu'ils travaillent, puisque même si on ne souhaite pas forcément voir les personnes migrantes uniquement sous le prisme de ce qu'ils peuvent nous apporter en termes de force de travail, c'est très utilitariste comme vision, finalement les personnes migrantes sont une partie de la vitalité économique du pays et on en a besoin, et c'est pour ça d'ailleurs que malgré des lois très restrictives, on ne fait pas appliquer ces lois, on ne renvoie pas toutes les personnes étrangères, et donc comme on ne les renvoie pas, elles sont sur le territoire, il faut bien s'en occuper. Nous, on a une responsabilité en tant que CCAS de leur permettre d'accéder à leurs droits fondamentaux, aux droits sociaux, et aussi le maire a une responsabilité d'ordre public, il ne peut pas laisser les gens mourir de faim et mourir de froid dans sa ville, donc on agit. On ne peut pas tout faire à la place de celles et ceux qui devraient faire. On essaye d'agir, enfin on peut agir sur deux leviers différents. La première, c'est de rendre inclusif aux personnes migrantes tous nos services publics. Donc ça veut dire sensibiliser nos travailleurs sur la question des droits des étrangers, qu'ils aient une bonne connaissance des orientations à faire, du tissu associatif, de l'Institut de défense des étrangers pour les orienter au mieux. Prendre en compte la question de l'inconditionnalité de nos accueils, ça ne veut pas dire faire croire aux personnes migrantes ou à je ne sais qui qu'on va distribuer des titres de séjour. Ce n'est pas notre responsabilité, on n'est pas la préfecture. En revanche, parce qu'on n'est pas la préfecture et qu'on n'étudie pas leurs titres de séjour, on n'a pas besoin de savoir s'ils ont ou pas un titre de séjour pour les accueillir au CCAS. En revanche, c'est des choses qu'on demande dans le cadre d'un accompagnement personnalisé pour savoir, on ne va pas orienter vers Pôle en France Travail une personne qui n'a pas de titre de séjour, ni vers une demande de logement social, mais on peut l'orienter vers d'autres droits, des associations. On adapte aussi nos règlements de paiement des services publics, de la cantine, si les personnes sont arrivées récemment. Et puis, on travaille à rendre inclusif aux personnes migrantes, notamment sans titre de séjour, nos aides facultatives, puisqu'au CCAS, on a des aides financières facultatives qui, pour l'instant, jusqu'à maintenant, n'étaient pas accessibles aux personnes sans titre de séjour, uniquement pour la délivrance du premier titre de séjour, et je le dis pour les associations qui sont peut-être pas toutes au courant, mais pour un premier titre de séjour, pour payer les timbres fiscaux, le CCAS peut éventuellement accompagner les personnes de la commune où les personnes migrantes résident. Et puis on peut aussi développer des dispositifs particuliers. Alors ça fait partie... En fait, un CCAS, il a très peu de compétences. Il est obligé de faire de la domiciliation, il est obligé de faire les aides facultatives, et puis pour tout le reste, on choisit un peu ce qu'on fait. Donc ça fait partie des compétences qui ne sont pas obligatoires et pour lesquelles il faut dégager des moyens. Donc c'est des choix politiques de dégager des moyens. Nous, à Bordeaux, nous avons décidé de multiplier par deux, même plus que deux, le budget du CCAS ces trois dernières années. On est passé de 7 millions à plus de 15 millions pour le budget du CCAS, aussi pour dégager des moyens dans le cadre de nos accompagnements, notamment des personnes en situation de migration. Nous avons créé 150 places d'hébergement pour des personnes dans notre patrimoine municipal. En fait, ce sont des personnes sans titre de séjour qui se retrouvent dans ces hébergements. On l'a fait au fil de l'eau, un peu en urgence, au fur et à mesure de notre découverte de notre patrimoine municipal, puisque tout n'était pas connu. Maintenant, on rénove petit à petit, on rend ça un peu plus stratégique dans une stratégie globale d'accompagnement des hébergements. Nous avons créé un poste de juriste dans notre CADA. D'ailleurs, je dirais un mot sur le CADA, puisque nous avons un CADA porté par le CCAS, puisqu'on considère qu'il faut des compétences juridiques pour accompagner correctement les personnes. Et puis, nous avons un poste d'accompagnement aux jeunes bénéficiaires de la protection internationale au sein du CCAS pour avoir des accompagnements au plus proche de leurs besoins et des réalités spécifiques de ces publics-là. Donc pour finir, un mot sur notre CADA, nous portons un centre d'accueil de demandeurs d'asile, d'accompagnement de demandeurs d'asile, où vivent 80 personnes qui sont en demande d'asile. Alors dans les faits, les 80 ne sont pas en demande d'asile, puisque nous avons des personnes qui ont obtenu la protection, la protection subsidiaire ou l'asile, mais qui n'ont pas encore trouvé de logements sociaux. Est-ce que c'est une bonne chose qu'un CCAS porte ce type d'établissement? Je ne saurais pas exactement vous répondre. D'une part, oui, parce que nous, on le porte avec les valeurs qui sont les nôtres. Donc moi, bon, je pense qu'on porte de bonnes valeurs. Donc on le fait aussi, et notamment avec les moyens que sont les moyens. On peut mettre des moyens supplémentaires quand on est une collectivité. On le fait sur d'autres centres, sur les EHPAD, sur notre centre d'hébergement de l'AID. On met des moyens en plus pour avoir une politique encore meilleure ou pour avoir des droits étendus, des ouvertures étendues, du personnel en plus. Sur un CADA, quand on le porte nous-mêmes, on peut faire ça. Cependant, le CADA, il est financé au prix de journée par l'État. Et dès qu'on va nous imposer des choses, dès que l'État, qui est gestionnaire, nous impose des choses, si ça va à l'encontre de ce que nous, on souhaite faire, on se retrouve obligé quand même de mettre en œuvre ces choses-là. Et donc actuellement, ça se passe bien dans notre CADA, mais on sait que les choses peuvent se dégrader, qu'on peut nous demander à un moment de mettre plus rapidement à la rue les personnes, donc ça peut nous inquiéter. Et puis on le sait aussi que suivant des changements de loi, des changements de gouvernement, quand il y a une loi comme la loi asile-immigration, on se demande quelles vont être les consignes dans nos établissements que l'on gère en délégation de compétences de l'État. Donc c'est des établissements qui sont lourds à porter et pour lesquels on n'a pas totalement les mains libres dans la manière de les faire fonctionner. Donc voilà, c'est un petit peu ambivalent. Voilà ce que je pouvais dire dans un premier temps sur notre accompagnement des personnes migrantes.
Merci beaucoup Harmonie pour ce panorama très très précis. Je pense qu'on va laisser intervenir chacun et puis on ouvrira peut-être les questions ensuite. Mais dans ce que tu dis, je pense que le contexte actuel, il doit être observé avec beaucoup de vigilance, hein, parce que les annonces, évidemment, sur les coupes budgétaires qui vont arriver, hein, les 10 milliards 20 maintenant qu'on nous annonce et les coupes actuellement qu'on nous présente, elles vont porter précisément sur ces prestations sociales, sur ces budgets de l'action sociale. Et je crois qu'on n'est pas au bout de nos peines, hein, dans le contexte. Tu dis que ça bouge beaucoup, mais oui, ça bouge beaucoup de manière technique. Il faut tout le temps s'adapter. Donc on pense qu'on a un peu stabilisé les choses. Et ben, il faut se réadapter, réinventer. Et c'est là que je parle vraiment d'obstacles, hein, politique, mais également administratif et quotidien, avec cette nécessité. On a toujours l'impression d'être en lutte, hein, sur ce terrain bien particulier.
Mon cœur n'est pas alloué. Je viens du sud, mais depuis petit, ma tête est à l'ouest. Maman, je t'aime, papa, où t'es? Au bled, je voulais prendre mon envol avec les alouettes. Avec ma famille, on a tous une histoire. Combien de pères de naissance et de décès? Quand je brûle, j'éteins, mais je ne raconte pas. Flas, rôti, l'attentat. J'ai traversé l'Espagne dans un Honda pour chercher mon trésor, même s'il m'attend pas. J'aime quand tu souris et que tu dis que tu m'attends. Pas quand tu pointes nos soucis sur ma tempe. Comme si c'était un gun bien chargé. Je vais vous raconter une histoire. C'est chacun sa part de chance, chacun sa part de malheur. Et des fois, la chance c'est maléfique, et le malheur c'est bénéfique, en vrai. 4h du mat, je me réveille, je fais une prière. J'espère que Dieu va bénir ma traversée. Je sais que je vais revoir dans la grandeur de l'océan les larmes que ma mère n'a pas versées. J'ai mon sac et je sors sans faire de bruit chez moi, personne doit savoir. Aujourd'hui j'ai rien, alors je suis personne. Demain je serai quelqu'un, car demain je vais avoir. À 7h du mat, je vois le ciel et les oiseaux s'envolent et on bonde. Je suis avec deux frères, on sait qu'on a peu de chance pour qu'on survive ensemble. Je sens le sel sur ma peau. Olida s'inquiète, elle m'appelle. Si je réponds, je lui dis quoi? J'ai vu à cause de la pauvreté de mon pays, c'est de sa faute. On m'a dit que la France est si belle, les opportunités de travail. Dans ma tête, j'ai plein de rêves, très loin des champs de bataille. Si cette fois ma chance m'est fidèle, promis, je m'éloignerai du mal. Je peux plus faire marche arrière, il est déjà 11h du mat. Bref, la vie c'est un voyage, mais pour nous ça démarre à la flouka. Ah, ah, combien de noyades ont été
été causé par cette louque. Ah, ah, ah. Effacer tous mes souvenirs, j'aimerais effacer tous mes souvenirs. Des fois où ils disaient que j'étais inapte, des fois où ils disaient que j'étais inapte. Effacer tous mes souvenirs, effacer tous mes souvenirs. Ah, Nadim Kham j'ai géré, Nadim Kham j'ai géré toi. Dire l'ordre de l'hygiène, dire l'ordre de l'hygiène. Nadim Kham j'ai géré, Nadim Kham j'ai géré toi.
Le guide du Bordeaux colonial, le rendez-vous décolonial de la Clé des Ondes.
Donc maintenant, je vais vous laisser la parole à tous les deux hein, pour présenter l'initiative hein, qui a été quand même pas mal mise en lumière, pas mal médiatisée de la Maison des Livreurs, qui a été aussi mise en exergue, vous le savez, avec toutes, là aussi, les questionnements sur la loi, sur les directives européennes, etc. Ça a été un petit peu... Mis en lumière avec un positionnement là aussi bien de notre gouvernement qui n'a pas été des plus progressistes sur ces questions-là, mais je suppose que vous allez nous présenter tout ça. Je vous laisse la parole.
Bonjour. Avant tout, merci beaucoup pour cette invitation. C'est la première fois qu'on est amené à prendre la parole devant autant de personnes. Donc voilà, c'est assez... voilà. Merci beaucoup. Avant toute chose, la Maison des Livreurs, je repositionne un peu ce que c'est, le contexte, c'est un projet qui a débuté en 2020 et c'est des livreurs qui sont allés voir le maire de Bordeaux qui était en campagne à l'époque et qui lui ont expliqué ce serait vraiment intéressant pendant votre mandat de créer une Maison des Livreurs parce qu'il y a un besoin. Les livreurs sont en situation de précarité, ce serait intéressant qu'il y ait une Maison des Livreurs. 2021, il y a eu un petit flottement. 2022, le projet s'est engagé et 2023, février 2023, la Maison des Livreurs a ouvert et c'est un projet qui est éminemment collaboratif. J'en profite pour remercier, parce qu'il y a certaines personnes qui ont participé à cette création, de manière directe ou indirecte. Je dis ça parce qu'en lien direct avec les propos introductifs, ce projet a été rendu possible parce qu'il y a eu un partage des connaissances, un partage des pratiques, des apports qui ont été donnés. Je pense notamment à la CIMAD, je pense à Alif, je pense aux EGM, je pense à Médecins du Monde. Et en fait, ce local, à la base, c'est 70 mètres carrés et on a l'ambition de créer un lieu pour les livreurs. On a pris la connaissance de toutes ces personnes-là et on a mis en place des ateliers pour ces livreurs. Les ateliers, quels sont ces ateliers ? Des ateliers juridiques, des ateliers d'accès droit des étrangers, parce qu'on était face à des personnes qui pourtant sont en France depuis 2, 3, 4 ans, 5 ans pour certains plus, qui ne savaient pas à quel droit ils avaient accès, qu'est-ce qu'ils pouvaient faire. Et ils ont trouvé dans la Maison des Livreurs un lieu propice pour pouvoir récupérer des infos sur leur situation et ce qui était possible de faire. Donc Alif est venu, la CIMAD, la STI sont venus. J'ai participé à des rencontres avec des personnes spécialisées en droit des étrangers pour moi-même me former. Et cette démarche-là, je trouve qu'il serait intéressante de la voir à un niveau territorial, à un niveau Bordeaux, à un niveau métropolitain, où on pourrait créer, je ne sais pas, un espace avec des partages de pratiques, des partages de connaissances, parce que c'est comme ça que notre projet, la Maison des Livreurs, a été rendu possible. Moi, je suis travailleur social de formation. Pendant les 3 ans, on ne nous parle pas de droit des étrangers. De toute manière, on n'est pas sur le terrain parce qu'il y a le droit des étrangers. Mais quand on est sur le terrain, quand on arrive en tant que travailleur social, sur nos premiers postes, on découvre tous les freins qu'il y a pour accéder à ces droits. Et donc, nous, à la Maison des Livreurs, c'est quoi les freins qu'on a repérés ? Avant toute chose, l'interprétariat, la compréhension des choses qui sont données aux livreurs. Ils passent par des structures qui vont leur donner des documents, sauf que ces documents, ils sont en français. Donc en fait, moi, j'ai des livreurs qui viennent me voir, regarde, on m'a donné ça, j'ai pas très bien compris, est-ce que tu peux me lire ce qu'il y a écrit ? On a la chance d'avoir une solution d'interprétariat, donc moi, je peux appeler ISM, je pense que tout le monde connaît ISM, une solution d'interprétariat téléphonique, et je leur explique le document qu'on leur a donné. Ensuite, ils vont se présenter devant des structures, mais ils sont pas en capacité de se faire comprendre. parce qu'ils vont parler soit un français imparfait, soit ne pas parler du tout français. Donc ils sont face à des travailleurs sociaux qui sont pas en capacité de, enfin eux ne sont pas en capacité d'expliquer leur situation, et les travailleurs sociaux ne sont pas en capacité de leur dire ce qu'il faudrait faire. Donc ils viennent me voir, et encore une fois, on les aide sur ces dimensions-là. Donc c'est pour ça que vraiment cette question de l'interprétariat, elle est absolument centrale. Je sais qu'aujourd'hui, en termes associatifs, s'il y a des personnes qui le font, dites-le-moi, ce serait vraiment très intéressant que j'ai cette info. Il y a le CASO Médecins du Monde, qui permet d'avoir de l'interprétariat, la PASS a de l'interprétariat. J'imagine que les associations que j'ai citées, Droits des étrangers, peuvent solliciter des solutions d'interprétariat, mais à part ça, il n'y a pas grand-chose. Et ça, c'est un vrai problème, parce que là, j'ai parlé du coup droit des étrangers, mais il y a aussi les droits en santé. Les droits en santé, quand on n'est pas en capacité d'expliquer sa problématique de santé à un médecin, à un infirmier, à un centre de santé, ça pose de gros problèmes. Donc évidemment, là, la question, c'est les droits des étrangers, mais il y a aussi cette question des droits fondamentaux, de l'aide médicale d'État. Il y a beaucoup de personnes qui ne bénéficient pas de cette aide parce que tout simplement, ils ne comprennent pas comment il faut faire. Et ils font face à des personnes qui ne peuvent pas leur expliquer dans leur langue. Donc vraiment, cette question de l'interprétariat, elle est absolument centrale. Ensuite, la situation des livreurs, elle est aussi compliquée parce que ces personnes, il y en a des personnes isolées, mais il y a aussi des personnes en famille. Ces personnes en famille, faut bien qu'elles trouvent un endroit où dormir. Et aujourd'hui, la réalité à la maison des livreurs, une écrasante majorité des personnes vivent en squat, vivent dans des appartements surpeuplés, vivent en rue. J'ai des situations de personnes qui, eux, ont passé tout le processus pour aller jusqu'au titre de séjour, et Dieu sait que ça prend du temps, qui ont attendu 2-3 ans, 4 ans, 5 ans avant d'avoir un titre de séjour. Ça y est, ils ont un titre de séjour, mais le parcours, il n'est pas terminé. J'ai des personnes, ils ont 23, 24 ans, ils dorment en rue à côté de la gare Saint-Jean, ils dorment derrière la gare, ils dorment à Bègles. On a des livreurs qui ont pourtant des papiers, qui sont passés par toutes nos structures, par toutes nos associations, et malheureusement, malgré tout, ils sont quand même en situation de rue. Donc moi, en tant que travailleur social, je fais le maximum pour essayer de les accompagner. Aujourd'hui, je suis coordinateur, mais je remets ma casquette de travailleur social. Mais on voit bien qu'il y a des difficultés, et il y a bien des difficultés pour les familles. Aujourd'hui, ils vont se présenter. S'il y a des personnes de la MDS, ce n'est absolument pas une attaque contre la MDS, mais aujourd'hui, la MDS ne peut pas prendre en charge des personnes qui sont sans papier. Et donc, ils vont renvoyer vers le 115, ils vont renvoyer vers le SAMU social, parce que leur dispositif, la manière dont il est construit, ne leur permet pas d'accompagner de personnes sans papier. C'est une vraie problématique, parce que moi, j'ai des livreurs qui viennent me voir, mon enfant est malade, ma femme est enceinte, et on vit en squat, et il n'y a pas d'électricité, et il n'y a pas d'eau, et le propriétaire, il est passé, il va nous virer, mon enfant, il a 3 mois, il a 6 mois, comment je vais faire, quelle solution je vais trouver, et on n'a pas cet interlocuteur de la MDSI, ou de la MDS, je ne sais pas comment, je me sens que c'est MDS qu'on dit aujourd'hui, MDS, on n'a pas cet interlocuteur qu'on peut solliciter. Donc j'appelle le 115, j'appelle le SAMU social, on essaie de trouver des solutions provisoires, et évidemment qu'il y a le CCAS qu'on met dans la boucle aussi pour ces situations-là, mais on voit bien qu'aujourd'hui, il y a peu de solutions, et du coup, qui porte ce poids-là, c'est le secteur associatif. Et c'est vrai qu'il y a un poids aujourd'hui absolument déraisonnable sur le secteur associatif. Je trouve qu'en plus, avec la loi asile-immigration, ne serait-ce que par l'exigence du niveau de français pour avoir un titre, c'est extrêmement préoccupant parce qu'aujourd'hui, les associations qui font des cours de français sont déjà absolument saturées. Demain, avec cette loi, ça va être encore plus compliqué. Donc voilà, il y a évidemment ce qui se passe au niveau de la préfecture, on pourra en parler des heures de la préfecture, le gouvernement qui joue un jeu extrêmement dangereux avec l'extrême droite, mais je pense que nous tous, au local, il y a vraiment un enjeu de créer des liens, créer des partages de pratiques, comme je disais, trouver des solutions, créer des dispositifs pour pouvoir pallier à ces situations immédiates, à ces personnes qui sont là en face de nous. Merci.
Bonjour à tous, moi c'est Khalifa, le coprésident des livreurs et représentant des livreurs à Bordeaux. En fait, moi je vais aborder la situation des immigrés. C'est que la plupart des personnes, je dirais en fait les Français, déjà sans oublier que vous êtes aussi chez nous, hein. Voilà. Désolé, je suis un peu froid, hein, voilà, et j'articule pas beaucoup. En fait, la plupart des immigrés qui sont en France, ou je dirais à Bordeaux, en vrai, on n'est pas là pour en profiter du système social ou je sais pas. Voilà. On n'est pas là pour ça en vrai. Moi, je suis un immigrant. Hein. Je suis en France. Voilà, je suis là depuis déjà plus de 5 ans. Mais en vrai, je me suis jamais assis pour dire j'attends quelque soit venant d'une association ou je sais pas, des Français. Et ce que vous ne savez pas, c'est qu'en fait, la plupart des immigrés qui viennent en France, ils viennent pas pour rester jusqu'à vie. Il y en a, ils sont venus pour travailler. Ou il y en a, ils sont venus parce qu'ils aiment bien la France. Ou il y a d'autres, ils sont venus pour étudier. La plupart, c'est comme ça. Mais ce que vous pouvez imaginer, et dans tout ça, c'est qu'on attend pendant des années, soi-disant qu'on n'a pas de titre de séjour. Déjà, je rejoins la dame qui dit qu'on n'a pas de papiers, qu'on n'est pas des sans-papiers. En vrai, on n'est pas des sans-papiers. On a manque de titre de séjour français. Sinon, il n'y a pas d'immigré qui est en France ici qui va dire que lui n'a pas un extrait ou dans son pays n'est pas enregistré. C'est impossible. Lui qui vous dit ça, c'est un menteur. Il n'y en a pas. Tous les immigrés qui viennent ici, ils ont tous un extrait. Ils sont bien enregistrés chez eux. C'est possible, je ne dis pas qu'il n'y a pas de faux documents. Il y a des faux documents, ça c'est clair. Mais la plupart, ils ont tous des documents. Ils ont tous des passeports. Il y a d'autres même qui ont des doubles nationalités, comme moi. Mais ils sont en France. Et on est là, on n'est pas là pour en profiter de votre système. Au contraire, non, on contribue au système. Comme je l'ai dit la dernière fois, c'est que vous imaginez quand vous sortez à 4 heures du matin, c'est les immigrés, vous le voyez dans les trams. À 5 heures du matin, c'est les immigrés, vous les voyez dans les trams. Et toujours, toujours, on parle des immigrés là. Vous imaginez qu'est-ce que nous on rapporte à la France? Déjà, un sans-papier, quand tu rentres dans un supermarché, tu vas acheter juste de l'eau, il y a le TVA. Je ne sais pas si vous prenez le temps de regarder les tickets de caisse, mais le TVA, on contribue. Un immigré qui est là, qui ne travaille pas, par jour, ce qui dépense, ça vaut 200 euros. Il y en a. Ceux qui travaillent au blague, puisque voilà, on travaille au blague, donc on n'est pas reconnu. Mais la plupart, ils travaillent. Je prends l'exemple des personnes que je représente, les livreurs. Il n'y a pas de livreurs qui ne dépensent pas moins de 400 euros par mois. Il n'y en a pas. Tous les livreurs, on dépense plus de 400, 500 euros. Minimum, si on n'a rien dépensé, c'est 400 euros. La maison. La sous-location, les factures téléphoniques. Vous imaginez, puisque je prends l'exemple sur moi, à Free, je paie plus de 30 euros chaque mois. Et ça me fait 5 ans que je suis en France. Depuis que je suis en France, j'ai toujours payé les Free et la facture téléphonique. Il n'y a jamais eu un mois que je n'ai jamais payé. Vous imaginez le nombre d'immigrés qui est en France? Surtout à Bordeaux ici. Je prends l'exemple de Bordeaux puisque je suis à Bordeaux. Nous tous on paye des factures, on contribue. Mais à chaque moment, c'est nous, on nous dit des immigrants, on est là en profiter des Français. En vrai, on n'en profite pas. Parce que quand on sort dans les McDo aujourd'hui, c'est nous, on travaille. On nettoie. Tous les travaux de merde que les gens ne pensent pas, c'est nous, on le fait. Mais ça, nous, on nous insulte. On dort dans un squat. Vous imaginez, il y a des familles qui sont là. Il y a la dame Bernie qui est là qui me connaît très bien, qu'on a fait une ouverture à Sénon de squat. Moi, je suis arrivé ici, je n'avais rien en vrai. Et quand je suis arrivé, avec Bernie, on a participé à ouvrir un squat de 300 personnes, plus de 150 enfants. Vous imaginez? Le matin, chaque matin, on se levait pour partager la nourriture aux gens. On participait à ce que si tout le monde allait bien. Et je remercie les associations qui essaient de faire leur effort avec des bénévoles. Mais il y a des personnes qui sont là, ils vont où? Et vous imaginez, c'est les mêmes personnes qui vivent dans des squats à 4 heures du matin, à l'arrêt de travaillement, le tram est rempli. Le tram, il vient vide. Quand il quitte à Thiers, Bélange. Je vous le dis parce que j'ai suivi où le tram s'arrête pour pouvoir un jour en parler de ça. Parce qu'on suit le tram, on voit. Quand une fois il arrive en face de le squat, le tram est rempli. En moins de 5 minutes, et toutes ces personnes elles vont travailler. Il y a tout type de personnes dedans. Donc, quand on dit, c'est absurde même de dire que les immigrants, on en profite du système. Parce qu'ils ne le savent pas. Bon, même si on jette un peu l'attention sur nous, mais c'est qu'on participe. Et ce qu'on n'arrive pas à comprendre, c'est que quand on est en France, on est là, on travaille, on participe. On est dans toutes les activités, tout ce qui rapporte. quels que soient les livres, ceux qui travaillent au Black, ceux qui nettoient les McDo, ceux qui font la distribution, tous ceux-là, on est dans tous ces moyens de chaîne, on travaille. Et après, on nous chasse, on nous dénigre, on nous insulte, on nous appelle les mêmes sans-papiers. Pourtant, on en manque de titres de séjour. Et vous imaginez, la plupart de ces personnes aussi, elles ont des formations. Il y en a, ce sont des conducteurs, ce sont des mécaniciens. En fait, tout type de travail, des chaudronniers, il y a tout, tout, tout. Mais ces personnes, elles sont devenues comme des éléments dormants parce qu'ils ont toutes ces qualités-là. On ne peut pas les exploiter, on ne peut rien faire. Le mec, il est là, il est venu pour étudier, ou bien il est venu pour travailler. En France, il va rester pendant 5 ans, soi-disant, il doit accumuler des preuves. 5 ans, c'est son âge qui augmente. Si le mec, il a 30 ans, 5 ans, il a 35 ans. S'il a 35 ans, dans 5 ans, il a 40 ans. Et lui, là, il pourrait faire quel travail? Je pense qu'on a tous des possibilités, puisqu'il y a des élus ici, et il y a des représentants politiques ici. C'est bien d'exploiter ces personnes-là, dans le sens où les qualités qu'ils ont. Voilà. Même si on est déjà dans l'exploitation, mais quand même, c'est bien d'exploiter ces personnes-là pour pouvoir toutes ces qualités qu'ils ont là, pour pouvoir s'en servir. Parce qu'aujourd'hui, il y a la manque de main-d'œuvre qui est ici. Les gens sont en manque de main-d'œuvre. Chaque jour, on demande on dit le chômage, la ta-ta-ta. Et pourtant, les gens sont là. Ils veulent travailler. Et les migrés, selon eux, ils ne sont pas là pour en profiter de votre système. Enlevez ça dans votre tête. Ceux qui le pensent, je ne sais pas quoi vous dire, mais en vrai, vous vous trompez. Vous vous trompez vraiment, parce que la plupart, on n'est pas là pour ça. On est là pour travailler, pour s'occuper de notre famille. Peut-être on a manque de... Je ne sais pas comment prononcer le mot-clé. On n'a pas assez d'économie chez nous, ou on n'a pas un bon système chez nous. Donc on vient ici pour pouvoir travailler, pour pouvoir s'en sortir. Et on n'est pas là pour en profiter de votre richesse. Non. Il y en a, quand on est ici, c'est d'acquérir des expériences et l'exploiter chez nous. Mais quand on nous rejette pour dire que voilà, on est là à profiter de votre argent, on prend votre argent, on nous donne, parce que nous on est là. Parce que ça me fait perdre les mots en fait. Parce que quand je m'assois, je pense à ça, je ne vois pas de suite. Ils se disent que nous on est là juste parce que voilà, c'est des blagues. Mais à 4h du matin, à 5h du matin, c'est les mêmes blagues là qui sortent. Dans les trams là, ceux qui nettoient les rues là, c'est les mêmes blagues là. Et puis aussi, je vais parler des juristes. Vous ne pouvez pas imaginer, nous, on est là, quels que soient les juristes, les avocats. Désolé madame, même si voilà, je vais parler de vous. Vous nous parlez des procédures qu'on ne sait même pas. On connaît même pas, on ne sait pas ça parle de quoi. Et quelqu'un peut dire, décide à notre place. Je prends le cas de la préfecture, même si ce n'était pas prévu que j'en parle. On ne peut pas attendre pendant 5 ans, 6 ans pour avoir une simple preuve. Pourtant, on a toutes les qualités pour pouvoir travailler. On a tout ce qu'il faut. On n'est pas des infimes. On est venu pour travailler. Nous, on est là pour travailler, pour avoir les petits pays, pour pouvoir s'occuper de notre famille. Ceux qui sont en manque d'économie, ceux qui veulent étudier. On est venu pour ça. On n'est pas venu pour en profiter de votre système. Donc c'est bien si vous changez d'idée pour dire qu'on est là. Et une partie encore, je vais parler des squatteurs. C'est bien les élus, les maires, les personnes qui sont ici, de trouver un système où les personnes là, si on peut mettre des bâtiments, parce qu'il y a plein de bâtiments à Bordeaux ici qui sont très vides. Il n'y a personne là pendant des années. Ces bâtiments, pourquoi on n'est pas les réhabiliter et loger ces personnes-là? Même s'ils vont juste contribuer, parce que la plupart de tous y travaillent. Tu ne peux pas demander à un immigré qui est en France ici, qui dit qu'il en manque de 100 euros et 200 euros chaque mois. C'est impossible. Même quand il ne travaille pas, il a tous des petits boulots à faire au Black. Donc pourquoi on n'est pas proposé ça? Juste, ces maisons-là sont déposées pendant des années. Parce qu'il y en a plein ici. Puisque moi-même, j'ai dormi dans un pendant 2 ans, 3 ans. Donc, je n'ai pas honte d'en parler hein, parce que je l'ai vécu. Mais c'est bien. Si on met un système en place, pour qu'il ne faudrait pas que toujours on attend à ce que voilà que la préfecture va nous donner notre titre de séjour. Non. Les mairies, les élus locaux là, ils peuvent nous aider à réhabiliter ces bâtiments là. Les personnes là, ils vont habiter. Et quand ils vont habiter là, il y a des travaux. Les gens ont travail. Je ne veux pas en parler du boulot, du travail au Black. Mais quand même, si vous mettez ça, nous, on pourrait se défendre. Et d'arrêter de nous accuser toujours que nous, les immigrés, on est là pour en profiter de votre système. Envoyez votre système, là, nous, on s'en tape de ça, parce que là, ça ne nous sert à rien. Désolé hein, si je parle comme ça, parce que c'est ça la réalité. Les gens, ils ont peur d'en parler, moi, j'en parle. Même si vous voulez, je sais qu'il y a des personnes qui vont vouloir casser ma gueule, mais bon. C'est clair. Ouais, parce que ça dérange. Donc, c'est bien si vous mettez ce truc-là en place et d'arrêter de nous accuser tout le temps. En tout cas, je remercie toutes les associations qui nous accompagnent, mais il y a beaucoup à faire. Parce qu'il y a la circulaire Valls, qu'elle a depuis 12 ans, depuis l'ancien ministre depuis 2012. Cette circulaire, elle est là. On attend 5 ans. Ça, c'était dans les périodes saisonnières. Là, on n'est plus dans les périodes saisonnières. Ça change. Les immigrés qui sont ici, ils viennent à chaque mois. Tout le monde, quand ils quittent chez eux, ils viennent, ils disent, on vient en France. Parce qu'en France, là, c'est intéressant. Mais quand il arrive là, il n'est pas là pour en profiter. Il est juste là pour travailler ou pour étudier. Si pour avoir juste un simple titre de chez vous qui va le permettre à travailler, et c'est qu'il va contribuer à l'impôt, à payer même. Mais ça, il faut attendre pendant 5 ans, 6 ans, il y en a même là. C'est même pas sûr. Quand tu appelles, on te dit, c'est pas sûr, hein, il faut attendre. On ne sait pas. Donc, c'est absurde. C'est bien que les maires, s'ils peuvent en parler de ça, ou s'ils peuvent trouver une solution. Si vous n'avez pas de solution, moi j'en ai des solutions. C'est clair, parce que je le vis et je l'ai vécu. Et je sais de quoi je parle. Donc c'est bien si ce truc-là, vous trouvez une solution à ça. C'est ce que je voulais dire.
Oui, pour compléter les propos de Khalifa, j'ai pas précisé tout à l'heure, les livreurs qui viennent à la maison des livreurs, et même les livreurs dans leur globalité, ils sont jeunes, ils sont très jeunes. C'est-à-dire qu'à la maison des livreurs, 50% ont moins de 30 ans. On a des livreurs qui ont 21, 22 ans, et en fait, eux sont dans une démarche, un début de parcours professionnel, et ils me demandent d'accéder à la formation. Aujourd'hui, un sans-papier ne peut pas accéder à la formation. Je sais bien qu'il y a des questions de financement. Je sais bien qu'il y a des questions de vérifier l'identité de la personne. Mais c'est quand même triste d'avoir une jeune population motivée, dynamique, qui souhaite se former sur plein de métiers dont on a besoin. Mais vu qu'il leur manque un titre de séjour, on ne peut pas les former. Et comme disait Khalifa, moi j'ai des personnes qui sont intéressées par le secteur agricole, ils sont intéressés par les métiers du BTP. Il y en a d'autres qui me demandent des formations en anglais, il y en a même un qui est venu me voir hier qui veut faire de l'interprétariat en anglais. Enfin, il y a vraiment des personnes qui ont... C'est des jeunes, ils n'ont pas de titre de séjour, mais c'est des jeunes, ils ont plein d'idées, ils ont envie de faire plein de choses. Et quand ils viennent me voir, et franchement c'est frustrant d'avoir des personnes qui viennent vous voir régulièrement en vous demandant la formation... une formation, moi aujourd'hui la seule réponse que j'ai pour eux c'est qu'il n'y a pas de formation pour les sans-papiers. Donc ça c'est vraiment une vraie problématique. Encore une fois, est-ce qu'il faut que ça soit encore les associations qui portent ce poids-là? Est-ce que les collectivités peuvent se former? Est-ce qu'il peut y avoir des parcours particuliers pour ces personnes? Je ne sais pas, c'est à réfléchir, mais c'est quand même très dommage d'avoir des jeunes motivés qu'on ne peut pas former. Merci.
Je reviens à ce que Jonathan disait, juste à cause du titre de séjour. Donc, s'il vous plaît, parlez au maire ou je sais pas, à toutes les personnes qui veulent participer, d'échanger ce système-là. Sinon, ça c'est un vrai gâchis. Parce qu'on ne peut pas avoir quelqu'un qui a envie de travailler, qui a envie de faire tout, et qui en manque de juste un simple document. Donc, c'est bien si vous trouvez une solution à ça.
Merci beaucoup pour ces témoignages qui sont vraiment, à mon avis, au cœur de la problématique qui est en fait incompréhensible. Parce que, et ça c'est documenté maintenant, redocumenté au niveau européen, au niveau français, on a un institut qui s'appelle l'Institut Convergence Migration, qui est un institut de chercheurs où on travaille avec des économistes. Bénédicte en fait partie, enfin on est tout un collectif de chercheurs. Les économistes nous ont démontré par A plus B que l'immigration aujourd'hui est source de richesse, c'est-à-dire que le solde il est positif. Ça ne coûte pas de l'argent, ça en rapporte. Et ce qui est compliqué aussi, c'est que demain, en fait, à long terme et à moyen terme, on est face à une situation économique qui est tout à fait problématique. On a besoin d'immigration, on a besoin de gens qui travaillent, on a besoin de former, on a des secteurs entiers, on l'a vu pendant la pandémie. Pendant la pandémie, on a affrété des avions pour aller travailler en Corse, pour aller ramasser les mandarines en Corse. Le gouvernement a affrété des avions de sans-papiers pour aller, et tout ça est documenté, on le sait. Donc c'est un problème de volonté politique qu'il faut à un moment donné assumer. Mais c'est quand même... je trouve que votre témoignage, il est vraiment hyper intéressant parce que quand on multiplie les entretiens avec des gens qui s'y sont arrivés en France, ils vous expliquent bien qu'en fait, ils ne sont pas là, ils n'en ont rien à faire. Ils sont là pour travailler, ils sont là parce qu'ils avaient un projet, ils sont là... La plupart du temps, c'est des parcours comme ça. Il n'y a pas que des parcours de demandeurs d'asile compliqués. Vous voyez, il y a aussi des parcours de migration qu'il faut à un moment donné, je pense... assumer. Et encore une fois, l'avenir, l'Europe, je pense, et ses politiques ont un problème je ne sais pas, tout à l'heure, à la fin de notre table ronde, on disait l'Europe forteresse, etc. Mais il y a eu un aveuglement politique sur nos problèmes démographiques, économiques, qui sont quand même... On a une population jeune, volontaire, qu'est-ce qu'on attend, quoi? Et donc, on a une espèce de... Moi, je disais toujours à mes étudiants, mais passer au bout là, du cours Victor Hugo tous les matins à 6 heures du matin. C'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant. Vous voyez, en fait, des camions qui arrivent et qui embarquent des personnes tous les matins par wagon entier, quoi. Alors ça, moi, je l'avais vraiment vu en Grèce, etc. Enfin, vous voyez dans certains... Mais en fait, à Bordeaux, vous le voyez. Il suffit d'aller sur les quais à 6 heures du matin et vous le voyez. Et donc, on a une économie totalement parallèle aujourd'hui que tout le monde assume. Et en plus, on va expliquer que ça nous coûte des sous, non ? Enfin, voilà. Et encore une fois, c'est documenté. C'est pas des fantasmes. Donc, il faudrait là aussi... Il y a des sites comme... Je sais pas si vous connaissez des infox... immigration, etc., qui font quand même un travail de remise en perspective systématique. Et je pense qu'il ne faut pas se décourager, même si on nous dit des énormités. Il faut tout le temps asséner ce point de vue qui est objectivé, encore une fois.
Pas facile, gagner l'argent français, bosser, pas facile, gagner l'argent français. Il y a la neige et le vent. Bosser, pas facile. Gagner l'argent français. Pas facile. Gagner l'argent français. Bosser, pas facile. Gagner l'argent français. Il fait froid, il y a la neige et le vent. Bosser, pas facile. Gagner l'argent français. We'll be right back.
français. Pas facile, gagner l'argent français. Bosser, bosser, pas facile, gagner l'argent français.
Le guide du Bordeaux colonial, le rendez-vous décolonial sur la clé des ondes.
Donc c'est ce que vous faites, je crois. La transition est parfaite dans votre collectif et donc je vais immédiatement vous passer la parole.
Merci, bonjour à toutes et tous. Donc, je représente aujourd'hui le collectif Nos Services Publics, qui est un collectif qui a 3 ans maintenant, qui rassemble des agents qui travaillent dans les services publics, donc fonction publique hospitalière, territoriale et fonction publique d'État. Donc c'est mon cas, en l'occurrence, je suis fonctionnaire d'État. On a deux manières de travailler. La première, c'est qu'on crée des espaces d'échange et de discussion pour que les agents se retrouvent et se sentent peut-être un peu moins seuls à galérer dans leurs services. Et puis la deuxième chose qu'on fait, c'est qu'on essaye de proposer des décryptages pour dire concrètement ce qui se passe lorsqu'un texte de loi est publié. Donc là, le dernier en date, si certains et certaines l'ont vu passer, on a annoncé 10 milliards d'économies. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire 10 milliards d'économies dans la vie de chacune et chacun ? Nous, concrètement, je vais rien vous apprendre, mais on constate beaucoup de baisses de moyens dans chacun de nos services, donc l'école, la justice, l'hôpital, etc. On constate aussi dans l'action sociale et dans l'accès aux services publics des personnes étrangères, peut-être encore davantage parce que ce secteur-là pâtit d'une législation qui est fondée sur une posture idéologique selon laquelle moins on accueille bien, moins les gens viendront, ce qui est évidemment complètement faux. Je ne vais pas revenir sur la question des intervenants et intervenantes sociaux en collectivité territoriale, puisque effectivement, les témoignages qu'on a au sein du collectif sont ceux qui ont été décrits. Hein, donc, le fait d'être absolument surchargé, de devoir faire beaucoup, beaucoup d'administratifs. Je peux peut-être donner un exemple aujourd'hui, si vous voulez être primo-accédant à Pôle emploi, donc ce qui suppose déjà d'avoir le fameux titre de séjour. Vous ne pouvez pas le faire dans une agence, il faut le faire en ligne. Donc si vous n'arrivez pas à le faire en ligne, pour diverses raisons, hein, vous n'avez pas accès, vous ne connaissez pas suffisamment la langue française, etc., vous venez en agence. En agence, il n'y a plus d'agents au guichet pour vous aider à faire la demande. Et dans la plupart des cas, c'est des services civiques. Donc des jeunes, très jeunes, qui ne sont pas très bien payés, et qui font ce travail-là sans être formés ni aux droits des étrangers, ni à la manière dont on peut accueillir des personnes qui parfois vont être totalement paniquées parce qu'elles n'arrivent pas à accéder à leurs droits, qui parfois ne parlent pas du tout ni français ni anglais, qui peuvent avoir des comportements agressifs parce que ça fait des mois et des mois et des mois qu'elles attendent d'avoir une ouverture de droits. Et derrière, on a les agents chargés de l'instruction, à qui on donne des temps de plus en plus réduits pour instruire les demandes, et qui donc, en 45 minutes, se retrouvent à regarder la situation administrative, est-ce que l'indemnisation Pôle emploi a été faite, et peut-être, s'il reste 5 minutes, on pourra parler de la formation ou de l'emploi avec la personne. Si elle parle français ou anglais, puisqu'il n'y a pas de système d'interprétariat possible, à part des logiciels de traduction, mais qui supposent que la personne sache lire et écrire dans sa propre langue. Voilà. On a parlé du français aussi, je ne vais pas y revenir aujourd'hui. Il y a quand même dans certaines villes une offre de français qui est assez importante, de cours de français, mais qui est complètement morcelée. Donc on a des cours par-ci, des cours par-là, on n'a rien qui soit structurant. Et aussi parce que on n'en a pas beaucoup parlé, mais l'action sociale aujourd'hui, elle est beaucoup financée par appel à projet. Donc les financeurs sortent un appel à projet, les associations sont finalement concurrentes pour y répondre. Et donc on a une action sociale qui est assez morcelée. Et qui rendent très difficile le fait d'être dans un parcours structurant pour apprendre le français. Mais pour plein d'autres sujets aussi, là je donnais cet exemple-là parce qu'on en a parlé. Dans le collectif, il y a aussi des fonctionnaires d'État et des agents qui travaillent pour l'État, donc des agents qui travaillent en préfecture. avec ces personnes-là qui ne souhaitent pas prendre la parole, donc c'est un point aussi qu'on voulait dire, hein. Il n'y a aucun agent de préfecture qui a souhaité être... cité dans les écrits qu'on a faits ou qui a souhaité prendre la parole lorsqu'on a des sollicitations presse, par exemple. On a écrit sur la loi Asile-Immigration, on a réécrit pour indiquer concrètement ce que ça voulait dire la préférence nationale, donc le texte issu du Sénat qui conditionnait les aides sociales à un certain nombre d'années de présence en France. Et on a essayé de décrypter, de dire concrètement ce que ça peut vouloir dire dans les services publics. Donc je suis désolée, j'ai pas vraiment de conclusion positive à vous donner de nos travaux, mais nous, ce qu'on dit dans nos études, c'est que le fonctionnement de l'institution de l'asile, il est pas trop mauvais. C'est-à-dire que l'Office français de protection des réfugiés apatrides, la Cour nationale du droit d'asile, ont connu des augmentations d'effectifs très très importantes ces dernières années, ont réduit leurs délais, fonctionnent à peu près bien. Pas bien, mais à peu près bien. En revanche, les services des étrangers en préfecture, c'est complètement un angle mort de la politique du gouvernement, mais ça l'est depuis des années. C'est pas ce gouvernement-là, précisément. Et la loi asile-immigration, elle va venir dégrader ce qui se passe à peu près bien dans le système de l'asile, et elle ne va absolument pas réparer ce qui ne se passe pas bien dans les préfectures, alors que c'est documenté par à peu près tout le monde. La défenseure des droits, les députés qui vont en préfecture, députés de la majorité aussi d'ailleurs, qui font état d'une hausse de saisine de la défenseure des droits, des associations, etc. Je vais juste vous donner deux exemples, parce qu'on aime bien dire un peu concrètement ce que ça peut vouloir dire. Le premier exemple, c'est les services des étrangers. Aujourd'hui, dans certains services, il y a une moitié de postes vacants. Le service, il travaille à moitié. Parce que plus personne ne veut aller travailler dans ces services-là. Voilà. C'est des services qui sont très difficiles. On a dit tout à l'heure, les associations, elles n'ont pas le temps de se former parce que la loi change tous les deux ans, mais en fait, les agents publics, ils n'ont pas le temps non plus de se former quand ça change tous les deux ans. Il y a aussi eu des baisses d'effectifs qui font qu'on doit travailler de plus en plus vite et donc de plus en plus mal. Et puis, pour pallier l'absence de ces demi-services, parfois, ben on fait appel à des vacataires. Donc les personnes vacataires, elles ont des contrats courts, des contrats précaires. L'État n'est pas un très bon employeur, hein, elles peuvent avoir des contrats qui ne sont pas bien payés. Elles peuvent aussi avoir des contrats qui vont s'arrêter le 30 décembre. Comme ça, on ne compte pas dans les effectifs de l'année et la préfecture peut dire qu'elle a respecté son plafond d'emploi. Et puis on va être réembauché le 2 janvier. Voilà. Donc l'état des services de préfecture, c'est aussi ça. Voilà. Le deuxième exemple que je voulais vous donner, c'est l'exemple du contentieux. On a parlé tout à l'heure des tribunaux administratifs qui deviennent finalement un sous-bureau de la préfecture pour octroyer des rendez-vous. Aujourd'hui, le contentieux des étrangers, c'est une des premières thématiques qui est traitée dans les tribunaux administratifs. C'est aussi le premier motif de saisine de la défenseure des droits depuis quelque temps. Et on a un système qui fait que maintenant les préfectures réservent des rendez-vous pour les personnes qui veulent aller demander un titre de séjour aux personnes qui ont eu une injonction tribunal administratif. Ça veut dire que vous n'arrivez pas à obtenir votre rendez-vous parce que c'est long, etc. Vous essayez sur Internet, maintenant c'est des files d'attente sur Internet. Vous finissez par aller au tribunal administratif. Le tribunal administratif donne une injonction à la préfecture de vous donner un rendez-vous. Et là, il y a des plages horaires réservées. Donc ça veut dire qu'il y a moins de rendez-vous pour les personnes qui ne sont pas allées au tribunal. Donc ces personnes-là vont mettre plus de temps, donc elles vont aller au tribunal. Voilà. Donc vous voyez un peu comment ça peut fonctionner aujourd'hui. Voilà. Bon, on a plein d'exemples, mais tous nos travaux sont disponibles en ligne si vous voulez aller les lire. Conclure là-dessus, en fait, si on résume un peu, on a aujourd'hui une très forte baisse de moyens dans les services des préfectures, pas que, hein, il y a aussi dans tous les services d'action sociale, etc., mais dans ces services-là. On a une instabilité très forte de la réglementation, donc le temps que les agents, déjà, et les décrets et les circulaires, parce qu'il ne suffit pas de la loi, derrière il faut la circulaire qui permet de savoir comment est-ce que ça va s'appliquer. Ensuite il faut comprendre, ensuite il faut être formé, ensuite il faut adapter les outils, puisque si la manière dont on délivre les titres change, ben, il faut changer les outils de travail aussi. Et puis une fois qu'on a fait tout ça, ben, en fait, il faut recommencer parce qu'on a eu une autre loi. Et donc là, nous, la conclusion qu'on a, qui n'est pas extrêmement positive, qu'on a donnée dans notre dernier écrit sur cette loi-là, c'est que les agents publics, fonctionnaires ou contractuels, c'est pas le sujet, hein, mais et les magistrats administratifs qui sont concernés par ce contentieux, aujourd'hui n'ont plus les moyens d'exercer leur métier. Et donc on a, à notre sens, trois conséquences. Le premier niveau de conséquence, c'est que les agents publics ne vont pas bien, donc ils partent de ces services-là. C'est pas forcément une solution, mais au bout d'un moment, on est humain aussi, donc on peut plus rester. La deuxième conséquence, c'est que ça insécurise complètement les personnes étrangères, qui savent pas si leur titre va être renouvelé à temps, Si c'est pas renouvelé à temps, elles risquent de perdre leur emploi, elles risquent de perdre les aides au logement, donc elles risquent d'arrêter de payer le loyer, donc elles risquent d'être expulsées. Et puis après, elles retrouvent leur titre de séjour et donc elles recommencent le parcours. Et il faut ajouter à ça le fait que la plupart des titres, aujourd'hui, on a cité Monsieur Valls tout à l'heure, la plupart des titres sont aujourd'hui instruits, hors étudiants, etc., sur la circulaire qui donne un pouvoir discrétionnaire au préfet. C'est-à-dire que même si vous remplissez tous les critères, vous êtes là depuis X années, vous avez toutes les bonnes fiches de paye, etc., le préfet peut quand même dire non. Voilà. Et donc il y a une inégalité de traitement des personnes étrangères usagères de ce service public qui vont avoir plus ou moins de chance, et c'est bien de la chance, selon dans quel département elles vont déposer leur demande de titre. Et donc ça a aussi un effet sur les agents publics, même si bien sûr il est beaucoup moins grave parce qu'il ne va pas atteindre leur vie comme cela atteint la vie des personnes étrangères. Mais les agents publics vont se retrouver avec une consigne qui change si le préfet change. Et l'agent public, il n'est pas sur un positionnement politique. Il est là pour appliquer le droit dans l'intérêt général, de la même manière pour l'ensemble des usagers. Voilà. La dernière conséquence qui découle de tout ça, c'est qu'à notre sens, ça dégrade complètement le rapport entre l'administration et les usagers. Donc c'est facile pour personne. Ça dégrade le service public et... En conclusion de tout ça, ça augmente aussi la défiance envers les institutions et la défiance envers, globalement, la parole publique. Voilà. J'ai cherché une conclusion qui soit positive et j'ai pas trouvé. Donc j'espère que les échanges avec la salle vont nous aider un peu, parce qu'on en a besoin aussi. Voilà. Merci beaucoup.
Je voudrais juste ajouter un mot. Par rapport à ce que vous disiez sur la nécessité d'utiliser les bâtiments pour faire de l'hébergement, on est entièrement d'accord et on le fait en partie, mais on peut pas tout faire. Enfin, c'est ça aussi la réalité qui est dramatique aujourd'hui, c'est que vous avez sans doute découvert dans la presse les difficultés financières du département, puisque le département chef de file de l'action sociale, donc qui a plus d'activités en période de crise sociale, est financé par la bonne santé de l'immobilier, qui n'est pas en bonne santé quand il y a une crise sociale. Donc les départements sont tous en très grosses difficultés financières, que ça a un impact très important sur les villes, notamment sur la ville de Bordeaux et sur tous les territoires, que nous avons des baisses de dotations, et parmi tout ça, nous avons une augmentation des précarités et des besoins sociaux. Et en plus, on doit faire des choix. Donc, comme je vous disais, on a mis 150 personnes dans notre patrimoine municipal qui était que l'on a rénové. C'est un coût de plus d'1 million d'euros. Et puis, pour le reste du patrimoine qui était en très, très mauvais état, là, on n'est pas sur de la rénovation comme on peut avec des associations, puisqu'on est sur parfois plus de 10 millions, 20 millions de rénovations. Donc, on est sur des baux à réhabilitation, des choses qui se passent pendant des années. On a bientôt 3 bâtiments qui partent comme ça pour faire justement de l'hébergement. Et c'est là que c'est compliqué, c'est que on doit faire des choix, on peut pas tout faire, on a une situation qui s'aggrave, et sur la question de l'hébergement, on a un sans-abrisme qui explose. Et c'est d'ailleurs tout cet argent que l'on dépense et que nous, ville, nous ne devrions pas dépenser, qui nous a poussé à attaquer l'État en justice. Aujourd'hui, on a fait un recours contre l'État à Bordeaux, à Strasbourg, à Grenoble, à Lyon et à Rennes. Voilà, contre l'État pour réclamer le remboursement de ces sommes que l'on utilise. Mais au-delà de ça, l'État est dépassé aussi par la situation du sans-abrisme. L'État local est dépassé, l'État national est dépassé, et qui peut agir? Le gouvernement. En mettant de l'argent sur la table pour cette question du sans-abrisme qui touche en grande partie des personnes en situation de migration, et qu'est-ce qui fait l'État face à ça? Alors, il ne prévoit pas un plan d'urgence pour un sursaut national pour le sans-abrisme. Il tente de supprimer le droit à l'hébergement de toute une partie de la population, les personnes sans titre de séjour. C'est ce qui s'est passé avec la loi Asile-Immigration. La réaction de l'État face à son incurie dans la gestion, du gouvernement, dans son incurie face à la gestion du sans-abrisme, eh bien, il a décidé de supprimer ce droit à l'hébergement inconditionnel pour les personnes sans titre de séjour. Heureusement, ça a été retoqué par le Conseil d'État, peut-être grâce à une organisation puissante et méconnue qu'est l'ANVITA, c'est comme ça que nous qualifie le Figaro, mais parce qu'on a participé aux portes étroites sur cette question-là spécifiquement. Mais voilà, donc on essaye de le faire, et en bout de chaîne, on ne peut pas tout faire, donc on a besoin nationalement d'un sursaut sur cette question du sans-abrisme.
On va pouvoir ouvrir les questions. je vous laisse vous signaler.
Oui, bonsoir. Gérard Clabé du réseau Éducation sans frontières à Bordeaux. Ce matin, vous étiez réunis, certains d'entre vous, apparemment, pour un débat qui portait sur, alors je relis le titre, « Personnes sans papier, habitants, habitantes de nos territoires aux droits incomplets ». Est-ce qu'il est possible de savoir ce qui s'est dit ? Alors, moi, j'ai lu un communiqué rapidement, mais j'ai l'impression que vous avez envie de pas vous laisser faire par un État qui est défaillant. Ça tombe bien parce que nous aussi, associations, je ne peux pas dire, parler au nom de toutes les associations, mais nous aussi, on n'a vraiment pas envie de se laisser faire. Et on bricole des choses pour essayer de pallier au manque d'hébergement, par exemple, pour les enfants, parce qu'ici, moi, je parlerai surtout des enfants qui sont scolarisés, qui sont à l'école dans la journée, parce que c'est le droit des enfants d'être à l'école, et qui sont dans des voitures, dans la rue, dans des squats le soir. Alors que ces enfants sont aussi protégés, ont des droits. Tout enfant aujourd'hui a le droit à la protection, à un toit. Donc on respecte ces enfants la journée, on les maltraite le soir, après l'école. Donc on serait assez prêts aussi de ne pas se laisser faire, le mot est peut-être un peu fort, d'entrer en résistance par rapport à un État qui, lui, par contre, semble tout à fait OK pour laisser les gosses dans la rue le soir. Et je voulais savoir dans quelle mesure, localement, peut-être faut-il reconstruire les choses localement, dans quelle mesure les collectivités territoriales, les communes, le département, localement, on peut reconstruire quelque chose ensemble. Merci.
Alors, ce matin, effectivement, on était réunis avec les adhérents de l'ANVITA, avec les collectivités, les élus, les parlementaires du Grand Ouest. Nous avons partagé nos inquiétudes et nous avons partagé nos bonnes pratiques. Ce que je peux vous dire, ce qu'il en ressort, en tout cas pour moi, nous avons des territoires avec des problèmes importants de gestion des personnes, notamment sans titre de séjour. Et il y a des territoires qui n'ont pas ce problème et qui pourtant étaient là, étaient présents, parfois des petites villes qui sont présentes parce qu'en fait elles se préoccupent de ça. Et donc elles décident d'ouvrir des centres d'hébergement pour demandeurs d'asile, des CAO, de mettre en place des bonnes pratiques et de signifier qu'elles sont prêtes à accueillir. Alors, on en a parlé tout à l'heure, parfois ça se passe mal, enfin parce qu'il y a des réactions comme à Saint-Brévin, mais parfois et souvent, ça se passe très bien. Et donc, il ressort ça, et vraiment une solidarité des territoires, parce que de toute façon, les grandes villes ne peuvent pas seules accueillir les personnes, et puis qu'une répartition, si c'est bien fait, et si les personnes sont accompagnées sur le territoire, ça peut être une bonne chose. Donc, on a partagé ça, et effectivement, ce que l'on dit, c'est que nous avons des valeurs, nous avons des orientations politiques, nous sommes parfois des militants et militantes très engagés. Mais ce que l'on dit là, il n'est pas issu spécifiquement de notre idéologie, mais aussi de notre de ce que l'on constate en tant que responsables locaux, en tant qu'élus dans des exécutifs, et c'est une réalité. On peut fermer les yeux et dire que ça n'existe pas, mais en fait, ça existe. Et je te rejoins, on a vraiment la nécessité, et nous, on veut retrouver ça. C'est pour ça aussi qu'on porte la nécessité d'un dialogue citoyen sur ces questions-là et d'une convention citoyenne. On a besoin de revenir à la réalité des choses, à une réalité scientifique, à une réalité historique, à une réalité sociologique, à une réalité chiffrée de ce que sont les migrations en France et de ce que sont les solutions qui fonctionnent. Moi, avant d'être élue, je tenais un UDA spécifiquement pour les personnes dublinées. Il y avait 40 personnes dans cet UDA. Il y en a 2 qui ont été renvoyées dans le pays européen. C'est des gens qui sont restés pendant des mois. J'ai eu les mêmes personnes pendant 9 mois, jusqu'à ce que je sois élue, que je quitte cet UDA. Pendant 9 mois, les mêmes personnes étaient là, dans des procédures très longues et coûteuses, même pour nous, pour les renvoyer dans un pays. Il y en a que 2 qui ont été renvoyées. Finalement, elles sont restées là, puis je les croise régulièrement. Je les croise au CCS, je les croise sur des vélos, parce que certains sont encore livreurs, certains sont aujourd'hui en situation régulière, d'autres non. Tout ça coûte beaucoup d'argent, alors que l'argent, on en a besoin. On en a besoin pour l'aide alimentaire, on en a besoin pour accompagner les personnes, on en a besoin pour embaucher dans nos CCS, dans nos collectivités, et on le dépense pour du rien du tout. D'ailleurs, peut-être que les personnes du collectif Anticra parleront tout à l'heure de tout cet argent qui est dépensé pour ça. Mais effectivement, on doit résister, et moi, je vous le dis, je prends ma part en tant que que femme politique et que femme engagée en politique. Je crois que au niveau des partis politiques, on a perdu une certaine bataille culturelle. On n'a pas été bon. Quand on voit passer la loi asile-immigration 2 ans après des présidentielles qui ont été pour ma famille politique catastrophiques, quand on voit les intentions de vote pour les européennes qui sont à près de 40% pour l'extrême droite et l'extrême droite, on se dit qu'on a perdu quelque chose, et effectivement je crois que localement on peut reconstruire ça, parce que il y a des attaques contre les élus, mais finalement pas tant sur ces questions-là. La question de la solidarité, moi, on vient jamais me dire « Ah, vous êtes une élue trop solidaire ». Et pourtant, étant une militante engagée dans les questions migratoires, quand je suis arrivée à la mairie de Bordeaux, je me suis dit « Je vais m'en prendre plein la gueule ». Et non. En fait, non. Très peu. Si, les choses pour lesquelles on m'attaque le plus, c'est pas pour les questions migratoires, c'est parce que je suis vice-présidente de l'Opéra et qu'il y a des gens qui trouvent ça inadmissible que moi, je sois vice-présidente de l'Opéra, parce que je ressemble pas à ce qu'ils imaginent être une vice-présidente de l'Opéra. Mais sur les questions migratoires, pas beaucoup, peu. Les gens disent pas « vous êtes trop solidaires, vous dépensez trop d'argent pour les migrants », contrairement à ce qu'on pourrait croire. Finalement, c'est une toute petite partie de la population. C'est pas un mouvement global. D'ailleurs, à Bordeaux, il n'y a pas d'extrême droite au conseil municipal. Donc oui, localement, on peut reconstruire des choses ensemble. La table ronde l'a dit précédemment, on a besoin de s'allier. On n'est pas toujours d'accord. On porte pas toujours les mêmes choses. Nous, on a des limites que l'on vous fait savoir, que vous n'acceptez pas toujours. Et c'est aussi parce que parfois, c'est pas toujours agréable, mais parfois vous venez et vous nous dites il faut faire plus, il faut faire mieux, que nous, on dépasse un peu ces limites. Aussi parce que vous nous rapportez les nécessités du territoire et les réalités que vous vivez, que nous, on bouge nos lignes. On peut pas tout faire, mais on fait ensemble, et mine de rien, on bouge les choses. Moi, je crois qu'on a quand même bougé les lignes à Bordeaux. Donc on doit reconstruire ça, on doit rester, c'est nécessaire de rester dans un dialogue entre les personnes concernées, les militants associatifs, les associations plus institutionnelles ou moins institutionnelles, les associations très militantes, moi ma porte elle est toujours ouverte, même pour les plus militants, et les responsables politiques, parce que à la fin du jour, en fait, nous on a les budgets, et nous on a une partie du pouvoir, et on peut décider, on peut faire, et donc si on n'est pas dans ce dialogue permanent et dans cette construction permanente ensemble, on va chacun être en silo et on va pas avancer pour la bonne réussite de nos politiques publiques, et surtout pour les personnes, quand cette loi asile-immigration, elle passe, c'est pas moi, adjointe au maire, que ça touche. Moi, je suis française, j'ai un appartement, je suis en couple avec quelqu'un qui est français et j'ai un enfant qui est français. Mais c'est les personnes qui sont migrantes sur nos territoires. Donc, et d'ailleurs, c'est pas non plus un certain nombre de responsables administratifs qui sont des personnes françaises sur le territoire. C'est les personnes migrantes. Donc, c'est pour elles aussi et avec elles qu'on doit s'assembler et faire mieux ensemble. Et je suis d'accord, ça passera par nos territoires.
Pour ajouter juste à ce que vient de dire Harmonie, je crois que vraiment ça c'est une question hyper importante en fait, c'est-à-dire qu'on nous reproche jamais d'en faire trop au niveau local. Et je trouve que c'est ce qu'il faut retenir, c'est que nous, au niveau de l'université, c'est pareil. On a des, là, je prends ma casquette de l'université, mais on a des budgets, etc. Et personne vient nous expliquer les acteurs, vous voyez, de l'université, qu'on aide trop ou qu'il faut pas faire ci ou faire ça. Au contraire, on a plein de bonne volonté des associations qui se sont montée, qui aide les étudiants en exil, etc., qui aide les étudiants à franchir, étrangers, à franchir la barrière culturelle. Donc c'est vrai que ça, c'est des bons signes aussi, et que c'est peut-être comme ça qu'on va faire bouger les lignes.
On va pouvoir passer la parole à une intervention à 4 voix du collectif Anti-CRA. Je passe le micro.
Donc juste, on a été sollicité par le collectif Anti-CRA qui voulait prendre la parole puisqu'ils vont nous expliquer en quoi la rétention administrative et la peur de la rétention administrative est quand même pas sans conséquence sur l'accompagnement et l'intégration des personnes migrantes. Donc on vous remercie d'être là aujourd'hui avec nous et on vous passe la parole.
Bonjour à tous. Le collectif Anti-CRA de Bordeaux vous invite aujourd'hui à rejoindre son opposition au projet de construction du nouveau centre de rétention administrative prévu sur la métropole, un projet d'un montant de 26 millions d'euros. Les centres de rétention administrative sont des lieux de privation de liberté, des prisons qui ne disent pas leur nom, où sont enfermées des personnes qui n'ont pourtant commis aucun délit. Être sans papier aujourd'hui en France n'est toujours pas un délit. Cette mesure introduite par la loi Darmanin a été censurée par le Conseil constitutionnel. Or, ce sont des lieux de violation des droits humains, en contradiction totale avec la Déclaration universelle des droits de l'homme. La France a déjà été condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme 11 fois pour l'enfermement d'enfants en centre de rétention administrative. Même si cela n'est plus prévu dans la nouvelle loi pour la France métropolitaine, l'enfermement des enfants continue d'être autorisé à Mayotte.
Le ministère de l'Intérieur communique sur une nouvelle génération de centres de rétention. Il se trouve qu'une commission parlementaire a visité le CRA 2 de Lyon-Saint-Exupéry, le premier de cette génération. Elle y a révélé des conditions indignes, un faible accès aux droits, un manque d'hygiène, une forte insalubrité des lieux, un suivi médical insuffisant. Vous pouvez aller voir la vidéo, elle se trouve sur Internet, c'est une enquête de Mediapart. Une phrase du dernier rapport de la contrôleure générale des lieux de privation de liberté résume la situation. Une réalité invivable, des conditions de détention déplorables et des maltraitances. Or, le centre de rétention administrative de Bordeaux-Mérignac serait conçu sur ce modèle. Mais voilà, pour la création de ce nouveau centre de rétention administrative, initialement prévu à Pessac, Bordeaux Métropole s'est proposé d'échanger avec l'État un terrain lui appartenant et situé à Mérignac.
Cette décision de la métropole d'échanger les terrains a été prise en 2022, bien avant les débats et le vote de la toute récente loi immigration. Nous vous invitons aujourd'hui à regarder cette décision sous ce nouvel éclairage. Et nous demandons solennellement aux élus de la métropole de rouvrir le débat sous l'angle de ces deux questions cruciales. Bordeaux Métropole doit-elle s'impliquer dans la mise en œuvre de cette politique de répression et de criminalisation des étrangers? Et via cet échange de foncier, Bordeaux Métropole doit-elle cautionner et participer à l'application de la loi Darmanin? Nous, citoyens, militants associatifs, membres d'ONG, de syndicats et d'organisations politiques de multiples tendances, pensons qu'il est de notre responsabilité de nous opposer ensemble à ce projet qui s'intègre totalement dans l'idéologie que sous-tend la loi Darmanin. Sa pierre angulaire est le développement de l'enfermement et de l'expulsion des étrangers, niant leurs droits les plus fondamentaux.
Les migrations continueront, qu'il y ait des prisons, des murs ou non. Pour la libre circulation des personnes et leur accueil sans réserve, ne soyons pas complices de cette violence institutionnelle. Nous partageons avec vous une vision du monde fondée sur la solidarité. L'accueil et l'hospitalité font partie des valeurs de l'Invita, et c'est pour ces valeurs que notre collectif se bat depuis 2 ans. Ce sont des principes fondamentaux, une fois encore atteints par la loi française et par le pacte européen, qu'il importe de faire vivre dans la métropole bordelaise. Une pétition est disponible en ligne et sur support papier. Et nous organisons également une soirée d'information sur les centres de rétention le 22 mars à l'ASTI de Bordeaux. Face à l'application des idées de l'extrême droite, ne cautionnons pas cette dérive délétère. Merci de votre attention.
Le guide du Bordeaux colonial, le rendez-vous décolonial sur la clé des ondes.
Vous nous interpellez en nous demandant, alors moi je suis élue à la métropole, ma collègue Sylvie Cassouscott ici présente aussi, en nous demandant de réouvrir le débat au Conseil de métropole, si tu veux dire un mot Sylvie, sur la position que nous avons déjà portée avec notre groupe à la métropole au moment de ce vote.
Oui, bonjour à toutes et à tous. Bon, je ne vais pas réouvrir un autre débat, mais celui-ci rentre quand même effectivement dans une poursuite de cette action qui est menée aujourd'hui par l'Envita, puisque nous sommes des territoires adhérents à l'Envita, donc qui nous engageons à être des territoires d'accueil, a priori pas des territoires d'accueil d'un centre de rétention administrative. Alors, je suis mérignacaise, hein, donc je ne suis pas ravie du choix d'implantation de ce CRA. Ce que je voudrais rappeler dans ce qui a été dit, et j'accueille votre demande, je pense qu'il faut que vous vous en fassiez la demande maintenant à notre nouvelle présidente qui a été élue ce matin, Christine Bost, faire une demande écrite pour faire effectivement souhaiter que cette réflexion puisse être menée tout autant. Ne rêvons pas et surtout ne nous trompons pas de cible. Ce n'est pas Bordeaux Métropole qui a décidé la création d'un CRA sur la métropole, c'est l'État. Quoi qu'il en soit, et vous le savez, ce CRA devait se faire dans une commune où l'État était propriétaire du terrain. Il y a eu une tractation entre deux communes, suite, il faut le dire aussi et le rappeler, suite à une manifestation de riverains qui n'étaient pas opposés au CRA, qui étaient opposés au CRA à côté de chez eux. Hein ? Donc c'est aussi les limites de nos citoyens. Hein ? On a effectivement dit, et je m'associe à tout ce qui a été dit tout à l'heure par ma collègue Harmonie, et par aussi tous les autres intervenants, sur les solidarités dont on est témoin au quotidien. Les solidarités qui se créent sur les territoires, par des associations, par des citoyens. Mais il a été dit aussi, et notamment par ma collègue élue de Nantes, qui a rappelé un scénario qui est effectivement extrêmement regrettable, d'une commune où un maire s'est vu démissionner après l'existence d'un CADA sur sa commune. Mais là, on est un peu, pas dans le même cas de figure, mais on est des riverains qui veulent pas avoir un CRA chez eux, donc c'est le CRA pas là. Hein. Je vous rappelle que nous sommes un certain nombre d'élus, et moi la première, sur Mérignac, qui sommes plutôt dans le CRA, ni ici, ni ailleurs, comme vous. Et c'est ce qui nous a amené, nous, dans notre famille politique, hein, des écologistes, nous sommes, à la métropole, hein, opposés, hein, à cet échange de terrain. Mais ce n'est pas tant à l'échange de terrain. On s'est opposés au principe de la création d'un CRA. Donc nous sommes tout à fait, je crois, en accord. J'ai envie de dire que vous pouvez effectivement faire cette demande à la métropole, mais ça n'est pas de la responsabilité de la métropole et ça n'est pas dans sa compétence que de s'emparer de cette question-là en tant que telle. Hein. Elle l'aurait été par cet échange de terrain à un moment donné, mais elle s'en est rendue peut-être complice, hein, entre guillemets, en acceptant cet échange de terrain, mais ne nous l'aurons pas. Hein. Le CRA, il aurait existé de toute façon. Je crois que moi, ce que j'entends de votre lutte et de votre pétition, elle est importante parce qu'elle est là pour éveiller des consciences. On ne sait pas ce que c'est qu'un CRA, forcément. Hein. Il y a encore du travail à faire, de sensibilisation, de prise de conscience de ce qu'est un CRA pour que les citoyens, effectivement, puissent peut-être, je dirais, s'opposer un peu plus qu'ils ne l'ont fait. Parce que, reconnaissons-le quand même, sur la métropole, on a entendu plus de personnes qui ne voulaient pas de CRA à côté de chez eux que pas de CRA du tout. Hein. Donc ça nous renvoie effectivement, et c'est d'où l'intérêt de cette journée, sur l'importance de, et c'est ce qui a été fait ce matin, l'observation, l'identification, la connaissance qui nous permettent effectivement de remettre un peu aussi les choses dans une réalité qui n'est pas les immigrants, ce qu'a dit monsieur Khalifa Gaouta. On est là pour venir travailler, hein, on n'est pas, il faut remettre ça un peu dans l'ordre de la prise de conscience des personnes. Donc continuez à agir, nous continuerons nous à agir en tant qu'élus, sachez-le, nous serons toujours opposés au CRA, nous serons toujours le dire, ça c'est une certitude. Pour autant, la machine est en route, hein, l'État continue son travail, il y a eu donc cette loi. Ce qui nous renvoie, simplement, je terminerai là-dessus, dans quelques temps, nous allons procéder à des élections européennes. Eh bien, là aussi, on a tout un travail de sensibilisation à faire, hein, des citoyens, allez voter. Parce qu'aujourd'hui, il y a quand même une montée de l'extrémisme en Europe qui est en train de se dessiner. Elle se fait aussi chez nous. Hein. Les sondages ne sont quand même pas très optimistes, très encourageants. Mais on a encore un petit moment pour se battre et pour faire en sorte de peut-être d'arriver à convaincre d'une part d'aller voter et de se dire, quand je vais voter, quand je mets mon bulletin dans l'urne, c'est pour qui je vote et pour quel projet et quelle société je vote. C'est tout.
Je porte juste une dernière précision, je ne vais pas monopoliser la parole, mais c'est pour vous dire que on a fait un recours, en fait, contre la délibération votée par... contre la délibération, voilà. Et donc c'est une affaire à suivre, parce que il y a un certain nombre d'aspects juridiques qui nous semblent douteux. Bon, on verra.
Bonjour, je suis Bernie du collectif Bienvenue.
J'aimerais, puisqu'en fait, on est vraiment dans l'action sociale, enfin, ce mot se confronte à la complexité du droit des étrangers. C'est un mot dur, se confronter, effectivement, c'est ce qu'on vit tous les jours, hein, on est confronté. Mais il y a quand même des solutions. Alors, je sais bien que le tableau est noir et que c'est compliqué, mais grâce aux personnes et au collectif, je pense au collectif Nos Services Publics, on peut peut-être faire des choses ensemble. Il y a une chose qu'on avait proposée en juillet 2020 à ONI, à l'époque avec Emmanuel, le jour où vous nous avez accueillis à la mairie, où je pense que c'est important que vous, Services Publics, vous accueilliez au sein de vos structures des personnes aussi jeunes que Khalifa et d'autres, puisque Jonathan le disait, c'est une population jeune. Il y a des possibilités aussi de les insérer, les intégrer, les je ne sais pas comment dire vraiment ce mot d'inclusion aussi, je ne sais pas, les intégrer auprès de vos services par une reconnaissance déjà de leur existence par le biais du travail. Parce qu'un service public et une mairie a tout corps de métier et pourrait éventuellement accepter ces personnes en stage, en cours de professionnalisation par exemple. Il y a des choses qui sont faites, il y a des mairies qui signent des stages d'insertion pour ces personnes-là, même entre guillemets sans papier. Donc, est-ce qu'il est possible de réfléchir ensemble à ces possibilités-là, d'intégrer des personnes dans vos services, mais aussi pour avoir la perspective d'obtention de papier, comme pourrait le faire, par exemple, Emmaüs avec des contrats de 3 ans et un aboutissement avec un droit au titre de séjour.
Alors, la réponse n'est pas vraiment oui, parce qu'en fait, alors je mets Emmaüs de côté, statut au ACAS très particulier, qui est d'ailleurs une loi spécifique pour Emmaüs. Nous, on est une collectivité publique et on ne peut pas embaucher de personnes qui ne sont pas de nationalité française sur beaucoup d'emplois, notamment les emplois fonctionnaires. Quand on n'embauche pas des fonctionnaires et qu'on embauche des contractuels, donc c'est une dérogation au statut de fonctionnaire, on peut le faire dans des cas bien précis et il faut que ce soit des personnes avec un titre de séjour qui couvre la durée du travail. Et en plus, les collectivités publiques ne sont pas les mieux placées pour permettre aux gens de prolonger un titre de séjour. Alors, j'entrerai pas dans la complexité du droit, mais c'est des choses auxquelles moi je suis confrontée très régulièrement, notamment parce que j'ai en charge les établissements seniors. On a 3 EHPAD et 15 ou 17 résidences autonomie avec un certain nombre de personnes qui travaillent, qui sont des personnes qui n'ont pas la nationalité française. Et s'il n'y a pas de renouvellement de titre de séjour, il n'y a pas de renouvellement de contrat possible. On est très contraint en tant qu'employeur public sur des contrats publics sur ça. On peut agir pour solliciter le préfet pour avoir des régularisations, soit à titre humanitaire, soit enfin voilà entre le maire et le préfet sur son pouvoir décisionnaire, ce qui peut marcher notamment dans le cadre des métiers très en tension comme les aides-soignantes ou les personnes qui travaillent dans nos établissements, mais ce qui ne marche pas à chaque fois. Donc nous, on n'est pas, on n'a pas la possibilité de contourner le droit du travail dans une collectivité publique. Sur la question des stages, je ne saurais pas répondre, j'en suis pas certaine, mais n'hésitez pas à nous solliciter. Moi, je sais qu'à chaque fois que j'ai été sollicitée pour une personne étrangère, ça a été beaucoup le cas. On a été sollicité avec ma collègue Fanny Le Boulanger sur la question des crèches. On a été sollicité par des collectifs, peut-être même par RESF, qui ont essayé, on a essayé ensemble de faire travailler des personnes. Ça n'a jamais vraiment fonctionné, ou sur des contrats extrêmement court et qui n'apportait rien après. Donc on veut bien réétudier. On avait demandé au service juridique, et moi très récemment j'ai eu le cas sur un contrat d'une personne étrangère qui était une personne américaine, mais où le titre de séjour s'arrêtait. On n'a rien pu faire. On peut le réétudier avec vous si vous voulez, mais on n'y arrive pas vraiment en fait. En tout cas, la collectivité n'est pas un bon moyen pour ça, je crois. Le droit ne nous le permet pas.
Oui, non, c'est un petit mot comme ça. Quelqu'un a mentionné l'horizon des élections européennes. Je pense qu'on va tous se prendre un gros coup de massue aux élections européennes, potentiellement. C'est 40%, hein, je crois, les dernières estimations de Jordan Bardella. Voilà, c'est... Voilà. Tout l'extrême droite confondue. Ok, extrême droite confondue. Mais du coup, enfin, moi, je relance cet appel et je pense qu'on est tous d'accord. Harmonie l'a dit, va vraiment falloir qu'on se rencontre tous et qu'on discute, parce qu'il y a les EGM, mais il me semble que les EGM, c'est que des associations, il me semble. Je ne sais pas s'il y a d'autres groupes, d'autres espaces où des travailleurs sociaux du CCAS, de la MDS, du SAMU social, d'autres structures peuvent se rencontrer. Peut-être que c'est déjà le cas. Il y a déjà un espace qui existe comme ça ou pas? Ok. Ok. Voilà. Parce que voilà, je pense que après les européennes va arriver 2025, va arriver l'horizon de 2027, et je pense que voilà, on a, je pense que ce qui serait intéressant, c'est de démontrer que nous, on souhaite pas une cité forteresse, mais peut-être voilà une cité accueillante qui réfléchit, qui fait cité. Voilà. Enfin, c'est vraiment l'enjeu, je pense, des prochaines années. En tout cas, la Maison des Livreurs participera avec grand plaisir à ces discussions.
En définitive, on peut faire des choses, on bricole, on tente, on essaye, on essaye de faire mieux, on soulage certaines personnes, certaines situations, on fait accéder à des droits, on fait des jurisprudences, mais je crois que le seul horizon positif envisageable pour les personnes migrantes, c'est la régularisation, et la régularisation massive. Et pour une régularisation massive, il faut des lois de régularisation massive et il faut changer le droit. Pour changer le droit, il faut avoir la main sur le Parlement, sur les réformes, sur le gouvernement. Et effectivement, c'est ensemble qu'on pourra le faire et pas séparer. Donc voilà, régularisation, une autre manière d'envisager les frontières, un accueil inconditionnel. Ça, c'est les valeurs de l'Envita que l'on porte et il faut qu'on puisse les porter. C'est bien de les porter ici dans cet espace, mais moi, je suis convaincue qu'il faut les porter plus haut et que ça, on ne pourra le faire que ensemble.
L'heure, pardon, de conclure. Merci infiniment, encore une fois, pour tous vos propos, pour les témoignages qui ont été fournis. On reste sur une note d'espoir. C'est vrai que je pense que le mot de la fin, c'est que quand on parle comme ça entre nous, parce qu'on est entre personnes qui, voilà, qui on est d'accord entre nous, quoi. Et j'ai l'impression qu'on parle un peu comme des résistants, vous voyez. Mais en fait, il faudrait davantage qu'être dans le repli et dans la résistance, dans la proposition. Et comme le disait Harmonie, pour ça, ben, il faut vraiment essayer de se mobiliser, de faire tomber les fantasmes et de mettre en avant les actions concrètes que vous portez tous. Voilà, bonne continuation en tous les cas. Merci beaucoup pour cette belle... table ronde.
Le guide du Bordeaux colonial, le rendez-vous des coloniales sur la clé des ondes, tous les mercredis à 13h, rediffusé le dimanche à 18h et quand vous voulez en podcast. Thank you.